ceux qui voulaient souhaiter bonne fête à Jonathan, ben vous avez manqué votre coup, c'est pas fait, parce que malheureusement, il devait quitter. Donc, c'est à la fête à Jonathan aujourd'hui. Ça l'est encore. Donc, ce matin, je vous propose un texte dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 13. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans ce texte. À l'Assemblée évangélique de Sainte-Foy, on fait présentement Éphésiens. On arrive à la fin, là. On a six chapitres, puis on est dans les derniers chapitres. On se rapproche de la conclusion. Le texte qui est devant nous, il commence par « Au reste ». Donc, ce matin, Jean-Paul, qui est à Sainte-Foy, il parle des versets précédents. Il parle des versets précédents, qui parle de la soumission aux autorités, aux maîtres, les serviteurs doivent être soumis à leur maître. Donc, il traite de ce texte-là ce matin. Puis la semaine prochaine, je vais poursuivre avec ce texte-là. Puis on a vraiment un changement de sujet, là. Donc, Paul arrive à la fin de sa lettre, puis il fait un petit rappel de choses que Dieu dit, un encouragement. Il met le point sur un aspect en particulier avec ce texte-là, puis c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, on va faire la lecture du texte. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Ça nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, j'arrête la lecture ici. Souvent, quand on entend ce texte-là, on a la suite avec les armes spirituelles du chrétien. Là, l'idée, c'est plus d'avoir la première partie de l'importance de s'appuyer sur le Seigneur qu'on va voir ce matin. Je vais faire un retour. Vous me connaissez, la majorité d'entre vous me connaissez depuis très longtemps, quand j'étais à peu près la grandeur de, peut-être pas d'Arnaud et Mégane, mais mettons d'Étienne, de cet âge-là. Donc, la majorité, vous me connaissez depuis très longtemps. Quand j'étais plus jeune et plus beau, probablement, j'avais... t'es d'accord avec ça, Marc? Oui. J'avais différents intérêts. J'ai jamais été un grand lecteur, que tu sais, prendre des gros livres là, épais et les lire. Mais quand j'étais plus jeune, je lisais quand même beaucoup. Qu'est-ce que je lisais en tant que jeune garçon ou jeune futur jeune homme? Qu'est-ce que je lisais? Je regarde ma mère. Des bandes dessinées. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. J'en lisais énormément. J'étais un grand partisan de tout ce qui était bandes dessinées de toutes sortes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient comme moi, qui aimaient ça, lire des bandes dessinées? Un peu. Soyez pas gênés. Vous pouvez vous sortir de l'ombre. En tout cas, j'aimais ça beaucoup. Puis, il y en a... Puis là, je regarde encore une fois ma mère. Il y en a une que j'aimais en particulier. C'était... Ah, mon père le savait. C'était Astérix. Donc, si je vous dis, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de poursuivre la phrase? Hein? Ouais, toute la Gaule est occupée. Par les Romains, toutes, non? Car un qui résiste encore et toujours, un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours un envahisseur. Puis je m'en souviens encore par cœur après tout ce temps-là, donc je l'ai lu beaucoup. La vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains, des camps retranchés de. Puis il y avait combien de camps retranchés? Quatre. Es-tu capable d'en nommer un, Daniel? Pas si pire. Y en a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer? C'est une des bonnes réponses. Babaorum, Aquarium, Londanum et Petit Bonhomme. Donc, bravo, Daniel, c'est vraiment... Hein? Petit Bonhomme, c'est Delson. Ça, c'est ce que William pense. Donc, effectivement, il y avait ses camps retranchés. Puis le texte, on regarde ce matin, pour toutes sortes de raisons, ça me fait penser à... Astérix, vous allez dire, ben là, c'est bizarre un peu. Pourquoi tu dis ça, Guillaume, que ce texte-là me fait penser à Astérix? À cause de la forme que c'est, on a une phrase, un village peuplé d'irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Donc, un envahisseur qui est les Romains dans l'histoire. Évidemment, c'est fictif, là, je ne vous apprends rien. Il y a un envahisseur qui est là, qui veut prendre possession du village, puis il y a des gens qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Puis c'est dans le texte qu'on a, on a une idée de résister. On a cette idée-là qui est présente, puis on va le voir plus tard. Donc, puis si on pense à Astérix, notre héros que j'aimais tant quand j'étais jeune, quand on pense, on le regarde, peut-être quand j'étais jeune, c'est différent, mais ça, il n'est pas très intimidant. Il n'est pas très intimidant, il est petit, puis probablement qu'il court vite, mais il est dans un contexte de guerre, il n'y a rien pour lui. Comparé aux Romains qui sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus nombreux. Donc, si on pourrait regarder, ce héros-là n'aurait aucune chance de s'en sortir. Ils sont vaincus d'avance, puis pourtant, c'est pas ça qui se passe. Pourquoi? La potion magique, parce que Astérix et les Gaulois, ils ont un secret, ils ont une force qui ne vient pas d'eux, qui est la potion magique, qui, quand ils en prennent, peu importe la quantité de Romains qui est là, ben ça ne change rien parce qu'ils vont avoir la victoire. Donc, vous comprenez l'idée. Puis le texte qu'on regarde ce matin, comme j'ai mentionné, il y a un peu cette idée-là qui est là, puis c'est vraiment, je prends cet exemple-là pour que ça marque un peu votre esprit, votre imaginaire. On a une idée qu'il y a un envahisseur, des dominations, des autorités, prince de ce monde de ténèbres, des esprits méchants, puis on est appelé à résister. Résister encore et toujours à cet envahisseur-là. On est appelé à faire ça, puis on a besoin de, comme Astérix avait besoin de sa potion magique, on a besoin de cette force qui ne vient pas de nous, qui nous rend capable de résister, qui nous rend capable de tenir debout par rapport à cet envahisseur-là qui est là. Puis c'est, vous avez déjà mon idée principale, la conclusion du message, c'est de l'idée de qu'on est dans une forme de combat, puis on a besoin de cette force pour nous amener à la victoire, nous amener à résister à l'envahisseur. Puis c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir des soldats limités. On va voir une force toute puissante. On va voir un adversaire féroce, un jour mauvais et des applications pour vous et moi en 2025. Avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps qu'on passe ensemble entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, avant d'étudier ce texte, on veut s'arrêter. Seigneur, on veut placer ce temps devant toi. On prie d'être avec nous, on prie de faire en sorte que ce temps de ta parole soit utile. Seigneur, tu nous laisses ce texte avec une intention, puis notre prière, c'est que la lecture, l'étude de ce texte soit bénéfique, utile pour chacune de nos vies. Puis on prie, on se place devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, des soldats limités. Verset 10, puis là, le verset 10 commence au reste, fortifiez-vous. Quand je dis des soldats limités, c'est à qui que cette lettre-là s'adresse? Une question facile. Aux gens d'Éphèse. Donc, dans le texte, il y a fortifiez-vous dans le Seigneur. Il parle à des vous. Là. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, ici, il parle aux Éphésiens. Puis on peut. Est-ce que ces Éphésiens-là. Est-ce que vous regardez cette lettre-là, vous dites, ça s'adressait à eux, puis pas nécessairement à moi aujourd'hui, à nous aujourd'hui. Non, ça s'adresse à vous aussi, puis ça s'adresse à moi aussi. Là, tu sais, même Paul, quand il écrivait, il dit, nous n'avons pas à lutter, il s'inclut dans cette lettre-là. Il parle d'une idée qu'on a à lutter, on a à être fort, à résister. Donc, la lettre s'adresse aux chrétiens de cette époque-là, aux gens d'Éphèse, à Paul qui s'inclut. Donc, nous, en 2025, cette lettre-là s'adresse à nous. Puis, on est, je vous apprends, je ne veux pas vous porter un jugement, puis je ne veux pas que vous preniez ça négativement, mais vous êtes déjà assez limité, comme moi également, dans le contexte de la lettre. On est, il ne faut pas penser qu'on est des super-héros, on est limité. Donc, si on revient à mon exemple d'Astérix, il y avait quelques Gaulois dans dans le groupe avec Astérix, c'était quand même assez costaud, là. Un genre de tragicomique, ce que je peux dire, que peut-être que ça vous dit quelque chose, mais on n'est pas comme ça, on est dans les... Il faut se voir comme assez limité. Limité dans notre force, dans notre... Puis, je ne veux pas être... je m'inclus là-dedans. Jade, tu me vois sûrement comme ça. Donc, je m'inclus là-dedans, on est limité, on est dans un contexte de guerre, de soldats, on est limité. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant, puis même dans la lettre aux Éphésiens, on a cette idée-là qu'on n'était pas, avant notre conversion, avant de connaître le Seigneur, on n'était pas des grands gagnants au niveau spirituel. Ça dit au chapitre 2, les versets 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Nous tous aussi, donc vous étiez morts, nous tous, Paul s'inclut, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc ce que le texte disait, c'est avant votre conversion, vous étiez morts, vous étiez dans le train de ce monde, vous étiez vaincus. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la suite de ce texte-là dans Éphésiens 2 à partir du verset 4? C'est quoi les prochains mots? Mais Dieu! Dieu est intervenu, Dieu a changé les choses, Dieu a fait grâce, Dieu nous a pris dans cette position de défaite-là, puis il a changé le cours des choses pour nous. On est maintenant des enfants, on est maintenant rapprochés de Dieu, on a vraiment cette relation avec lui. Donc Dieu a changé les choses, mais par notre nature, parce qu'on était, très limités. Puis maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien qui veut marcher avec le Seigneur, il faut garder en tête qu'on a encore cette nature-là, cette faiblesse-là. On a encore ces limites-là qui sont présentes. On est encore des gens dans la chair avec nos forces, mais surtout nos faiblesses. Puis le texte mentionne cette idée de se fortifier. Donc, si l'idée d'être fortifié, c'est de devenir plus fort. Tu sais, si mettons, quand on était plus jeune, là, Jonathan est parti, mais tu sais, il s'entraînait pour être plus fort parce que c'était son travail. L'idée, c'est de se renforcer. Et puis, est-ce que cette idée-là d'être plus fort, c'est dans un contexte militaire? Probablement que quand Paul écrivait la lettre, il était en prison, il était à Rome quand il écrivait. Probablement qu'il était gardé en tout temps par des soldats, puis probablement qu'il regardait un soldat, puis ça l'a inspiré avec cette idée-là de guerre. Puis c'est un peu ce qui l'amène à discuter ce point-là. Mais dans le contexte, dans le texte qu'on a lu, il y a vraiment des langages associés à la guerre, associés au combat, qui est très présent. Je l'ai mis en rouge dans le texte, ça, que j'espère que vous lisez bien. Ça dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Ça parle d'armes, ça parle de tenir ferme, ça parle de lutter, de résister, encore une fois, les armes de Dieu. Donc, il y a une idée de combat, une idée de guerre, une idée, c'est ce langage-là. Puis, il est intentionnel, Paul, quand il utilise ce langage-là. William McDonald mentionne « Tout enfant de Dieu véritable apprend assez vite que la vie chrétienne est un combat ». Évidemment, la vie chrétienne, on est sauvé par grâce, on a cette relation-là avec Dieu, on a cet héritage-là qu'on s'est rappelé ce matin, on a une assurance d'une entière délivrance, mais avant d'arriver là, notre vie sur la terre, on va avoir des luttes, on va avoir des combats, on va avoir des difficultés, puis on va l'apprendre assez rapidement. Le Seigneur Jésus lui-même, dans les Évangiles, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Donc, si on est des brebis qui allons au milieu des loups, on ne peut pas penser que ça va être sûrement très facile. Donc, on a un défi, un combat, il y a quelque chose qui est difficile, il faut avoir ça en tête. Un des commentaires que je lisais quand je préparais ce texte-là, ça disait « De nombreux chrétiens sont vaincus dans leur vie chrétienne parce qu'ils ne sont pas sérieusement engagés dans la guerre à laquelle nous sommes appelés. » Donc, on est appelé à avoir des combats, des défis, puis on est appelé à s'engager dans ces combats-là, dans cette guerre spirituelle-là. On est appelé à avoir cette préparation-là, cette perspective-là, puis si on ne le fait pas, on est un peu vaincu d'avance. Donc, on a une idée, il faut avoir en tête qu'on... Dans notre vie chrétienne, il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes, il va y avoir ces choses-là. Puis il faut se préparer, il faut accepter que c'est une réalité pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Donc, on est des soldats, parce qu'on est dans, on a une guerre spirituelle à vivre, à accomplir, à affronter, puis on est limité. Donc, ça, si j'arrêtais là le message, je dis bonne semaine, ça irait pas bien, on serait un petit peu découragé. Heureusement, il y a des moyens d'avoir une vie victorieuse, il y a des moyens de s'en sortir. Ça amène un deuxième point, une force toute puissante. Je fais la relecture du verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Donc, l'idée, c'est d'être fortifié dans le Seigneur. Puis la version français courant, ça dit de prendre, de puiser votre force dans le Seigneur. Donc, on doit reconnaître qu'on a, dans notre chair, on est limité, on est faible, on n'a pas on ne peut pas avoir la victoire, mais dans le Seigneur, c'est un peu notre potion magique, si on revient à l'exemple de tout à l'heure, qui nous permet d'avoir une force qui ne vient pas de nous, qui vient du Seigneur, qui vient nous aider. Petite question, est-ce que vous pensez, puis je me doute évidemment de la réponse, que le Seigneur a, le texte nous dit que sa force est toute puissante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que, puis c'est faux? Évidemment, c'est oui la réponse. Puis dans toute la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, il ramène constamment cette idée-là de la supériorité, de la force de notre Seigneur, de Dieu. Dans Éphésiens 1, les versets 16 et 21, là, dans l'extrait, c'est des extraits que je vous présente ici, là, il parle, dans les versets 16 à 21, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez différentes choses et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Donc, il mentionne dès le début que le Seigneur a une infinie grandeur de sa puissance. Sa puissance est infiniment grande. Se manifestant avec efficacité, pardon, par la vertu de sa force. Je poursuis, la déployant en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est des mots qui reviennent dans le texte qu'on a regardé ce matin, de domination, d'autorité. Donc, le Seigneur est au-dessus de toutes ces dominations-là, de toutes ces autorités-là. Donc, on doit puiser notre force dans le Seigneur. Toujours dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il mentionne ces vérités-là, puis après ça, plus loin, il dit « Je fléchis au chapitre 3 les genoux devant le Père afin qu'il vous donne » selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, Paul prie pour eux, puis il leur dit, « Je prie que le Seigneur vous rende d'être fortifié, qu'il vous rende fort, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Donc, il y a cette idée-là, un texte encore connu, verset 20 du chapitre 3, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, le Dieu qui a créé l'univers, le Seigneur Jésus qui a calmé la tempête, qui a accompli des miracles, qui a fait des grandes choses, cette puissance-là qui l'habitait, on est appelé à puiser dans cette ressource-là. Si on y va par nos propres forces, on n'y arrivera pas. On a besoin de s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? C'est des choses qu'on sait bien, des choses qu'on a déjà entendues, mais on a besoin de se rappeler. Pourquoi? Parce que notre adversaire n'est pas facile, il est féroce. Et c'est un adversaire qui est dur, ce n'est pas une proie facile, aucun nom. Poursuivons la lecture. Un adversaire féroce. Revêtez-vous, verset 11, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il y a une idée, premièrement, de se revêtir. Il y a une certaine responsabilité. Tu sais, dans la lettre que Paul fait aux Éphésiens, il mentionne de toutes les bénédictions spirituelles qu'on a. La lettre commence avec ça. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Puis il va les lister, puis il va les mentionner. Il y a plusieurs bénédictions qu'on a, puis c'est des choses qui sont acquises. Mais ceci dit, dans la mise en pratique, dans la marche qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, on a à marcher d'une façon qui est digne de la vocation que Dieu nous a appelée. On a une responsabilité de se revêtir, d'être équipé, de se revêtir de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes, Darby mentionne une armure. L'idée d'armes, d'armure, j'aime mieux l'armure parce qu'il y a une idée de défense en arrière de tout ça. Évidemment, je ne veux pas que vous sortiez d'ici à la fin de mon message. Je veux dire, on est équipé pour aller attaquer l'adversaire féroce. Ce n'est pas ça l'idée. C'est, on a à se défendre contre les attaques qui peuvent venir. On n'a pas, à sortir d'ici, se bomber le chest en se pensant fort. On a à dire, on s'appuie sur le Seigneur pour être capable de résister aux attaques qui peuvent venir. Donc, l'idée d'avoir une armure, c'est l'idée d'être capable de se défendre. Une armure complète. L'idée, c'est d'avoir tous les morceaux, de pas se priver. Une idée d'être préparé. Encore une fois, je rappelle cette idée d'un soldat que peut-être que Paul voyait, probablement qu'il voyait ce soldat qui était là. Puis on s'entend que le travail de ce soldat-là était quand même assez facile. Son travail, c'était de surveiller Paul. Ça devait être... dans les soldats romains de l'époque, ils devaient avoir qu'il y avait des jobs plus compliqués, plus difficiles. C'était quand même, mais probablement que le soldat était quand même habillé au complet, avec son armure, avec tous les morceaux, pour être sûr d'être bien protégé. On est une famille qui détestons pas le hockey. Quand on joue au hockey, on met tous les morceaux. Quand je continue à jouer, différentes pièces d'équipement, puis on les met. Puis ça arrivait des fois quand je jouais, quand on était plus jeune, on oubliait un morceau. Puis on joue-tu avec ou sans? Puis à chaque fois, si on manque un coude, on se faisait mal. T'sais, on a besoin de tous les morceaux pour être bien protégé, bien équipé. Puis c'est un peu la pensée au niveau spirituel aussi. Faut pas dire on prend à la légère d'être bien de porter l'armure, d'être bien préparé pour pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, c'est-à-dire rester debout, de rester fort devant les attaques qui peuvent venir. Tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, c'est tout qu'un adversaire qu'on a à résister. Le diable qui est Satan lui-même qui est mentionné. Les ruses du diable, donc, est-ce que faut pas avoir en tête, puis là ici l'image que je montre, c'est un piège à souris là, qui est comme un peu banal. Puis tu sais, si j'étais la victime, ben là, j'ai juste à pas y aller, c'est facile. Faut pas penser que le diable, il y a des pièges qui sont aussi faciles, là, aussi prévisibles. Le diable est là depuis la création, depuis le jardin avec Adam et Ève. Il y a beaucoup d'expériences, puis il y en a vu d'autres. Donc, si vous pensez être plus malin que lui naturellement, vous vous trompez. Il y a énormément d'expériences. Oui? Ben, c'est toi qui es tombé en... Hein? T'es déconnecté? OK. Je vais faire la lecture. Je vais laisser Mario faire la petite mise à jour. Jean 8, le verset 44, c'est le Seigneur Jésus qui parle de Satan. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, dès le commencement, il était là. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. On est de retour. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, il est meurtrier, il est menteur, il est très intelligent, il est très rusé. Dans 2 Corinthiens, c'est mentionné, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il est capable de faire plein de choses pour être capable de séduire, de tromper, d'amener les gens dans l'erreur. Donc, on a besoin de toutes les armes pour être capable de bien résister à ce que Satan a à proposer. Puis, on pourrait penser des fois que les choses qui vont... ces ruses, ces artifices, ces stratégies, ça serait des péché grossier d'une certaine façon pour faire tomber. Oui, mais c'est pas juste ça. Quand je disais les commentaires, ça m'a marqué. William McDonald mentionne le diable use de divers stratagèmes, le découragement, la frustration, la confusion, l'échec sur le plan moral, l'erreur doctrinale. Donc, c'est des choses qui peut utiliser pour nous tromper, pour nous amener à tomber, nous amener à vivre des chutes, des échecs spirituels. Ça nous dit « connaissant notre point faible, il s'y attaque ». Donc, chacun, on est chacun différent, on a chacun nos forces et faiblesses. L'adversaire, il connaît nos faiblesses, puis il va s'attaquer. Si on a des choses que ce n'est pas un enjeu pour nous, il ne va pas se perdre son temps avec ça. Il connaît nos faiblesses, puis il va s'y attaquer. Donc, on a évidemment à faire preuve d'énormément d'humilité à travers ça pour être préparé à être à la hauteur lorsque les attaques vont arriver. Je poursuis la lecture, le verset 11, ça nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça veut dire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est la lutte qu'on a spirituelle. C'est quand même intéressant. Puis évidemment, on a nos luttes contre notre propre chair. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. On a des luttes contre notre propre chair. L'argument de Paul ici, c'est de comprendre que les luttes qu'on a, ce n'est pas uniquement contre des choses qu'on peut voir, des choses visibles qu'on peut voir, qu'on peut apprécier, mais il y a des guerres, des adversaires qui sont invisibles, qui ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang, évidemment, je vous vois, vous me voyez, c'est des choses qui sont visibles. Il y a des luttes spirituelles avec des êtres qui sont invisibles, qui sont évidemment plus forts, plus costauds que nous. Puis il va les mentionner, les dominations, autorités, princes de ce monde de ténèbres, esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que vous pensez que c'est quand je dis domination, autorité, princes de ce monde? À quoi vous pensez? À quoi vous pensez quand on lit ces versets, ces expressions-là?
Les systèmes religieux.
Système religieux. Le diable, évidemment. Fausse doctrine. On pense à différentes choses, mais l'idée derrière ça, puis le texte dans Éphésiens, dans la lettre, il ramène constamment ces idées-là dans Éphésiens. Déjà, le texte que j'ai lu, on avait vu qu'il était plus puissant que les autorités, que les dominations. Éphésiens 3, 10, on dit « Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc, c'est des êtres dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 2, ça nous mentionne « Vous marchiez autrefois, on l'a lu dans le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, ces idées de domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, l'esprit méchant, c'est des choses qui est déjà mentionnées dans la lettre, qui ramènent ici. Puis c'est ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut comprendre, c'est des esprits mauvais qui sont du côté de Satan, qu'on a à lutter. Ce que le texte nous dit, on a à lutter contre ces esprits mauvais. Puis évidemment, on ne peut pas aller trop dans le détail, on n'a pas les informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain ordre au niveau des dominations, autorités, des esprits déchus, des anges déchus, puis on a à lutter contre ces anges-là. C.S. Lewis mentionne qu'on est porté à commettre, on a vu ça dernièrement, on suit un cours fondement le samedi, une fois par mois, ça dit « Nous sommes portés à commettre au sujet du diable ou de ses envoyés, donc les anges déchus, deux erreurs opposées, mais d'une égale gravité. » Parce que, tu sais, on est un peu déstabilisé quand on parle des esprits mauvais, ces choses-là. Premièrement, une des erreurs qu'on peut avoir, c'est de dire que nier leur existence ou agir comme s'ils n'étaient pas là. Puis, de notre côté, c'est apporter un intérêt massif, alors porter un intérêt massif et malsain. Donc, d'un côté, on peut être un peu boucher les oreilles, agir comme s'il n'y en avait pas. Puis d'un côté, avoir un trop grand intérêt pour ça, puis être un peu agir comme un peu une chasse aux sorcières, là, tu sais, voir de l'esprit partout. Il y a comme un équilibre entre les deux, évidemment. Nous, à Sainte-Foy, on a quand même beaucoup d'immigrants chez nous là, qui viennent à notre assemblée. Nos enfants, ils font partie de la minorité visible, quand on va à l'école du dimanche, on a quand même beaucoup d'enfants de plein de nationalités. Puis, les gens qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Haïti ont ces réalités-là des esprits malsains. C'est quand même présent dans leur culture. Tu sais, nous, ici, on est un peu, quand on lit ces textes-là, on a de la misère à avoir ça comme quelque chose de tangible, de réel. Mais pour eux, ce n'est pas des versets qui déstabilisent d'aucune façon. C'est très tangible, c'est très réel. Il y a malheureusement des pratiques occultes qui ont lieu, qui existent. Donc, c'est des choses qui sont très pertinentes pour eux. Nous, on a tendance à être peut-être un peu plus du côté de l'autre côté, c'est-à-dire agir ou vivre comme si ça, il n'y en avait pas. Mais la Bible est claire. Il y a des anges déchus qui s'opposent à nous, que leur but, c'est de nous attaquer, nous, les élus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces anges-là sont équipés, sont organisés, ces anges-là sont organisés, sont dangereux, ils ont un objectif de s'attaquer à nous. Donc, on ne faut pas les prendre à la légère. Il ne faut pas avoir une attitude d'être passif relativement à ça. On a besoin de se préparer, mais en ayant en tête, là, j'ai montré cette image-là, ça vous fait penser à quoi, cette image-là? Oui, merci François. C'est l'homme qui était possédé de plusieurs esprits qui s'appelait Légion. Puis que l'esprit, quand il voit le Seigneur Jésus, il reconnaît son autorité. Ils vont aller vers lui puis ils vont faire exactement ce que le Seigneur va leur demander. Fait que c'est rassurant. Évidemment, d'un côté, on peut être déstabilisé, dire « Oh, on a ces ennemis-là qui sont beaucoup plus grands. » Puis d'un côté, on peut se rassurer que le Seigneur Jésus, que Dieu a autorité sur ces anges déchus-là, malgré même une chance, parce qu'évidemment, ils sont beaucoup plus puissants et forts que nous. Donc, ça devrait nous rassurer de connaître ça. Quatrième point, un jour mauvais. C'est pourquoi, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Encore une fois, un rappel, une responsabilité de prendre toutes les armes de Dieu. Donc, oui, on a cette assurance-là que le Seigneur est plus fort. On a cette certitude-là que le Seigneur est victorieux, que le dernier mot, que notre destinée éternelle est assurée. Mais dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, on a à prendre toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire à s'appuyer sur lui, à mettre toute notre force, toute notre confiance sur lui pour être capable de résister. Encore une fois, l'idée de résister, c'est de tenir debout. Résister, ça veut dire qu'il y a une attaque, ça veut dire qu'on a à réagir, ça veut dire que, tu sais, si je me pousse avec mon père, mettons, tu sais, évidemment, il va résister, il va pas... Donc, on a une certaine... Il va y avoir un peu des conséquences. On a résisté pour le mauvais jour. Dans le mauvais jour. C'est quand ça, le mauvais jour? C'est à quel moment vous pensez que ça peut arriver, ce mauvais jour-là? C'est n'importe quand. Effectivement, on peut pas dire, ah ben là, à chaque combat que j'ai, à chaque situation que j'ai, ah ben c'est une attaque de l'ennemi. Ça serait... un peu une chasse aux sorcières, je ne pense pas qu'il faut penser ça, mais il faut penser qu'on vit dans un monde déchu qui peut avoir des combats, des mauvais jours pour nous qui se présentent. MacArthur mentionnait, vous voulez savoir quand arrive le mauvais jour, aujourd'hui, hier, demain, n'importe quel jour. Donc, ma mère avait encore une fois raison. Ça peut être n'importe quel moment. Le mauvais jour est le jour où le mal règne dans ce monde, et cela aussi longtemps que Satan est le prince de la puissance de l'air. Donc, Satan règne, donc il peut avoir des attaques à tout moment. On a besoin d'être prêt, on a besoin de s'appuyer sur le Seigneur parce que les attaques peuvent arriver à n'importe quel moment. 1 Pierre 5, le verset 8 mentionne « Soyez sobres, veillez. » Donc, une idée d'être veillé, d'être prêt. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'idée de tenir ferme, encore une fois, pouvoir résister, tenir ferme après avoir tout surmonté, donc... l'idée de tenir ferme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Ça n'aura pas fait mal un peu. Ça ne veut pas dire que si les vents sont forts, ça ne va pas nous influencer. Si l'attaque est forte, qu'on n'ait pas de conséquences. On peut être certain que si on s'appuie sur le Seigneur, on peut avoir la victoire. On peut être certain que le Seigneur ne nous abandonne pas, mais ça se peut que ça soit difficile. Fait qu'il faut se préparer à ça dans notre vie chrétienne parce que c'est une possibilité. Dans 2 Corinthiens, Paul mentionne qu'il va s'appuyer sur les armes qui viennent de Dieu. Dans l'Épître, il mentionne ça. Puis plus tard dans la lettre, il mentionne toutes les choses qu'il a vécues. Toutes les difficultés, les persécutions, les naufrages, les chars contre la chair qu'il y a. Donc, Paul, il s'appuie sur Dieu, il met toute sa force, il s'appuie sur la force de Dieu que Dieu lui donne. Puis pourtant, il y a des difficultés. Pourtant, c'est difficile. Donc, dans notre vie chrétienne, c'est possible qu'on ait des difficultés. Il faut s'y préparer. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Puis il faut accepter que ça se peut que ça soit difficile. Évidemment, on ne se le souhaite pas. On souhaite que ça. Avoir des beaux jours, mais il faut se tenir prêt, il faut veiller pour être prêt pour les difficultés qui peuvent se présenter. Quel genre d'application qu'on peut tirer d'un texte comme ça? Évidemment, c'est un rappel, c'est un encouragement, donc je vais rappeler des choses qu'on a déjà vues dans le texte. Il y a une guerre qui a été déclarée, il y a une guerre spirituelle qui a lieu, on a à se garder, même si on est dans un contexte où on n'est pas dans des grandes persécutions, on n'est pas dans des grandes difficultés au Québec, on a à se rappeler que on fait quand même partie, en tant qu'enfant de Dieu, d'une guerre spirituelle. Puis c'est important d'être prêt, c'est important de garder en tête. Il est vital, pour un commentaire que je lisais, il est vital pour votre survie en tant que chrétien, que vous réalisiez que lorsque vous êtes devenu chrétien, vous avez été enrôlé dans l'armée de Dieu. Chaque jour, vous êtes engagé dans une bataille contre un ennemi spirituel invisible qui cherche à vous détruire. C'est quand même un rappel qui est grave. Puis évidemment, il y a des jours qu'on ne ressent pas ces réalités-là. Il y a des jours qu'on va sentir des difficultés plus grandes. Donc, on a à être prêt. On a à garder en tête qu'on doit s'appuyer sur Dieu. On doit garder en tête que si on n'est pas bien, on n'a pas cette réalité-là, mais on peut se faire prendre. L'ennemi ne peut pas être sous-estimé. On a un ennemi qui est... On a mentionné le diable. On a mentionné... les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Donc, l'ennemi est important. Puis, on ne peut pas le sous-estimer. On a lu le texte qu'on était des brebis parmi les loups. En général, si on met une brebis puis un loup ensemble, la fin n'est jamais positive pour la brebis. Donc, on a à garder en tête dans notre vie chrétienne que c'est carrément ce que le Seigneur a annoncé. Donc, on a à réaliser que ça se peut que ce soit difficile. Puis l'ennemi, il nous en veut, fait qu'on a besoin du Seigneur. Puis on a à réaliser aussi que le mauvais jour ne peut être évité. Éventuellement, évidemment, je nous souhaite que ce soit, on ait des belles journées, puis qu'on ait des... Puis évidemment, on sait que si on s'appuie sur le Seigneur, on va avoir des belles journées, puis le Seigneur nous promet d'être avec nous, mais il va arriver des mauvais jours, puis on a besoin de se préparer. La préparation est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi, se préparer? C'est réaliser qu'il peut y avoir des épreuves. Sans préparation, lorsque les épreuves arriveront, vous penserez que quelque chose ne va pas. Vous vous demanderez pourquoi Dieu a permis cela. Vous ne comprendrez pas la réalité de votre situation. Donc, si on ne se prépare pas, on va arriver des épreuves, puis on va être pris au dépourvu. On a besoin de veiller, de s'appuyer sur le Seigneur, puis quand les épreuves, les difficultés vont arriver, on va comprendre que le Seigneur est là, comprendre que le Seigneur nous avait avertis, comprendre que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, mais qu'on est dans une réalité d'une guerre spirituelle, puis ça fait partie des choses qui peuvent arriver. On ne croit pas en tant que... En tant qu'assemblée, je suis certain, un évangile de prospérité. Le Seigneur ne nous promet pas d'avoir une prospérité. Il promet d'être avec nous, par contre, à travers toutes les situations qu'on peut vivre. Puis évidemment, un rappel, c'est que sans Christ, on n'y arrive pas. Je me souviens, il y a plusieurs années, Jean-Coup Barriana s'était venu prêcher ici. Je pense qu'il prêchait dans Romains 8. Il avait dit, puis je ne me souviens pas du tout ce qu'il avait dit, à part une phrase, chaque matin je me réveille, puis si, il me dit, Seigneur, si tu n'es pas là, j'y arriverai pas. Puis c'est un peu l'attitude qu'on doit se dire en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir cette attitude-là, que si le Seigneur n'est pas avec nous, on n'y arrivera pas. On doit s'appuyer sur lui, on doit trouver notre force sur lui. Les meilleurs soldats de Dieu sont ceux qui sont conscients de leur propre faiblesse et inefficacité et qui s'appuient uniquement sur lui. Donc, on a besoin. Puis comme Astérix devait prendre régulièrement de sa potion magique pour rester fort. On a besoin de s'appuyer sur les vérités de la parole de Dieu, de vivre dans la prière. Les textes que je n'ai pas lus, là, les armes spirituelles du chrétien, ça parle de vérité, ça parle de justice, ça parle de l'Évangile, ça parle de foi, ça parle de l'esprit, ça parle de prière, ça prend la parole. Donc, on a besoin de ces choses-là. On a besoin de se renouveler continuellement. Si on ne le fait pas, on s'affaiblit. On devient plus fragile. Puis, c'est pas parce que l'année passée, j'ai eu une bonne année spirituelle que là, je reste fort. Quand je me suis marié, il y a plusieurs années déjà, ça fait plus de 8 ans, je m'entraînais beaucoup. J'étais en bonne forme. C'est fini. J'ai arrêté de m'entraîner, puis je suis en moins bonne forme. C'est pas resté, ça c'est parti. Puis spirituellement, c'est la même chose. Si on ne s'entraîne pas spirituellement, on s'essouffle, on devient plus faible, plus fragile, puis on fait quand même partie d'une guerre spirituelle. Donc, gardez ça à la tête. C'est important de toujours se renouveler, de s'appuyer sur le Seigneur Jésus. On va terminer par un mot de prière. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Seigneur, c'est sûr qu'on ne souhaite pas de difficultés, on ne souhaite pas de faire partie d'une certaine façon de cette guerre spirituelle-là, mais ta parole nous dit clairement qu'on a un adversaire qui rôde, qui veut nous faire tomber, qui veut s'attaquer à nous. On ne sait pas nécessairement quelle forme ça peut prendre, mais on sait que c'est réel, c'est présent. On réalise notre propre faiblesse, puis on réalise qu'on a besoin de toi, Seigneur. Puis, Seigneur, ma prière, c'est qu'on sorte d'ici avec un bon rappel de notre propre faiblesse, nos propres limitations, mais de ta toute-puissance. Puis, un encouragement à s'appuyer, à renouveler notre zèle pour ta parole, pour la prière, pour pouvoir tenir ferme à travers les difficultés qui peuvent arriver. Donc, merci Seigneur que tu nous as promis que tu allais être avec nous. Merci Seigneur qu'on sait que c'est toi qui es souverain, qui es tout-puissant, puis on peut avoir cette certitude-là. Puis donne-nous la force à travers les situations qui peuvent arriver, à tenir ferme, puis à rester fidèle. Je prie de bénir cette semaine, d'être avec nous dans tout ce qu'on va faire. Puis je prie d'être avec cette assemblée, de la bénir abondamment. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.